Je suis à Genève, au café Bagatelle, tout proche du bureau du festival Filmar en América Latina, dont je rencontre la nouvelle directrice, Vania Ayón. Bonjour.
Bonjour.
Et nous nous rencontrons à l'occasion de la prochaine édition du festival qui est incessante sous peu. Le festival qui a été créé en 1999, alors ça implique qu'il y a bientôt deux décennies. Quels sont les éléments que vous allez mettre en avant puisque vous prenez cette direction, donc nouvelle ère, nouvelle direction?
Oui, tout à fait. Donc on est effectivement à la 19e édition de Filmar en América Latina. Je reprends en ce moment la direction. Plusieurs lignes directrices. On est tout quand même toujours avec des opéras prima et des coups de cœur qui vont avoir lieu comme les autres années, plutôt avec des films, des premiers films, et puis des films aussi sélectionnés dans différents festivals d'Europe. Après aussi une sélection de films par pays. On revient à une sélection de films par pays avec le souhait d'avoir une programmation qui nous permette quelque chose de large, de pas être trop restreint dans ce qu'est l'Amérique latine, parce que faire un festival sur l'Amérique latine, c'est très vaste. Le continent est grand, la diversité culturelle est grande. Donc de cette manière-là, on peut un peu se balader dans cette Amérique latine et voir ce qui se produit dernièrement en Amérique latine. Donc c'est ce choix-là. Ouais.
Parmi les coups de cœur, il y a quand même quelqu'un d'imminent, d'essentiel, Patricio Guzmán. C'était quelque chose de décidé il y a longtemps, de lui rendre hommage.
C'est venu assez vite, oui. En fait, après, les décisions qu'on prend certaines fois pour faire... Moi, j'ai fait des études à la Haute École d'Art et Design de Cinéma. J'ai une direction... ma vie, elle est plutôt peuplée par le cinéma. Donc, j'ai effectivement des pères et des gens qui m'ont guidée vers le cinéma. Et Patricio Guzmán a été une des personnes qui a été importante dans ce que j'ai découvert, en tout cas, sur le cinéma du réel. Et puis après, j'ai perfectionné ma vision du cinéma avec des personnes comme Jean-Louis Comolli, qui sont des grands écrivains autour du cinéma et autour d'autres thèmes. Et c'était l'envie de s'arrêter sur certains cinéastes qui ont été et qui sont importants en ce moment encore par rapport à leur trajectoire historique, mais aussi par rapport au... Et surtout, je dirais, par rapport au langage cinématographique. Une grande puissance dans ce qu'ils amènent, et donc oui, ça s'est décidé assez vite dans l'année. Ouais, l'envie d'avoir Patricio Guzmán. Après, c'est toujours difficile parce qu'on est faut se faire une petite place, faut rencontrer les gens, faut aller les chercher, faut les convaincre, et puis c'est peu à peu que ça se tisse et qu'on arrive peu à peu à se dire, ah voilà, on a un lien. Le lien, il faut le créer, et c'est toujours très difficile de les créer au départ. Quand aussi on est nouvelle directrice, peut-être la différence, c'est que je suis d'origine chilienne, donc je suis binationale, et je pense qu'en dehors du fait que j'ai fait des études de cinéma, il y a l'attachement avec le Chili et l'histoire du Chili. Donc, oui.
Alors, avant de revenir à cette prochaine édition, Vania, rebondis sur ce que vous dites. Vous avez des pères, des mères dans le cinéma qui vous ont nourri. Parlez de Patricio Guzmán. Quels sont les autres qui vous ont amené sur le chemin du 7e art?
Pas forcément toujours l'Amérique latine, hein. Ça a été en dehors. Moi, c'est vrai que je fais mes écoles ici, mais c'est vrai qu'un Abbas Kiarostami m'a beaucoup amené au cinéma. Enfin, m'a révélé d'autres choses du cinéma, je dirais. Et puis, je dirais que les maîtres qui m'ont toujours bousculé, c'est ceux qui m'ont posé la question de qui je suis comme spectateur. Alors là, il y en a plein. Je suis un peu aussi de cette école de Pasolini, je suis aussi un peu de cette école de Sajines, je suis encore aussi de cette école de plus jeunes réalisateurs comme Pablo Arquero, ou comme je me retrouve aussi dans des cinéastes plus présentes de femmes comme Lucrecia Martel, Jane Campion. Je navigue, et je navigue parce que c'est comme ça qu'on arrive à cerner le mieux le cinéma, en fait. Quels sont les codes qui nous permettent de le voir? Alors là, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année à m'arrêter simplement sur l'Amérique latine. Ça a été nouveau, ça, pour moi, de devoir m'arrêter sur un continent très large, jamais abouti. Et puis, comme c'est la première année de la direction, je redécouvre l'Amérique latine par la cinématographie des différents pays. Et pour l'instant, je suis encore dans cette découverte. Donc, voilà.
J'ai vu que Filmar en América Latina, pour cette édition, il y a aussi une part qui est faite aux femmes en tant que créatrices.
Oui, on me l'a fait remarquer. Indéniablement, c'est parce que je suis une femme, j'imagine. Je n'ai pas vraiment la réponse là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai vu d'autres gens qui m'ont relevé ça il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pendant que j'étais en train de programmer, les femmes prenaient de la place, mais elles ont... Difficile à dire. Mais en tout cas, je pense qu'elles ont pris de la place parce que leur langage cinématographique m'a intéressée. Et c'est la première chose qui fait que je sélectionne un film. Je ne sélectionne pas un film parce que c'est une femme. Je sélectionne un film parce que c'est un bon film qui pose la question de où on se situe, ou que la thématique est intéressante, ou que je pense que quand on réfléchit dans une programmation, on réfléchit à... qui sont nos voisins, qui sont nos amis, qui sont nos frères, qui sont pas les gens qu'on ne connaît pas, mais à qui pourraient plaire les films. Et donc c'est ça qui nourrit la tête de programmateurs comme moi ou avec l'aide d'autres gens. Mais on se pose la question, à qui est dédié le film ? Et je pense que les films aussi, les réalisateurs sont dans cette quête-là, de dire quand ils font un film, à qui je le dédie ? Et il s'est trouvé qu'en fait, effectivement, il y avait... une place plus prononcée sur les femmes, mais je pense que c'est ce que j'ai trouvé aussi assez fort dans la ténacité. Il y a aussi pas mal de premières œuvres qui sont des premiers films, et moi c'est vrai que les premiers films, j'y suis très attachée. Je suis attachée par l'urgence qu'ils demandent, la ténacité qu'il faut avoir pour faire un premier film, elle est toujours très différente des films qui viendront par la suite. Et donc voilà, oui, je pense que là, il y a eu des coups de cœur féminins qui sont apparus.
Vous avez mentionné en début d'interview que vous étiez justement dans le pôle cinéma à l'AIDE, l'autre école à Genève. Et puis, vous avez réalisé divers films avant le film au Venezuela, La Terre Tremble. Mm-hmm. Est-ce qu'on vous a justement ouvert des portes à l'occasion de ce film ? Et c'est à vous aussi l'occasion d'ouvrir des portes aux jeunes cinéastes, ces cinéastes de première œuvre ?
En tout cas, je ne sais pas si on m'a ouvert beaucoup de portes. Les portes, elles ne s'ouvrent pas facilement dans le monde du cinéma. Les portes, il faut les ouvrir. Alors après, c'est vrai que c'est les œuvres qui ouvrent les portes, parce que... C'est l'objet filmique qui permet une certaine puissance ou qui est reconnu à certains moments donnés. Mais non, les portes, elles ne sont pas faciles à ouvrir. Les portes pour les jeunes cinéastes, elles sont faites de beaucoup d'embûches parce qu'elles sont faites liées à des financements. Et oui, effectivement, ça, je connais. C'est-à-dire que je sais ce qu'il faut faire pour arriver à faire un film.
Il faut de la pugnacité, de la ténacité.
Il faut être un lutteur. Faut être une lutteuse, faut être très courageux et jamais baisser les bras et toujours croire que c'est possible. Et j'admire beaucoup ça chez les cinéastes parce que c'est des gens en général multivalents, ils ont beaucoup de savoir-faire qui sont très peu reconnus, qui sont reconnus jusqu'à la finalité quand le film est fait. Bon, avant de faire un film, il faut savoir faire tellement de choses et c'est quand même un chemin lié avec quand même... ouais, quelques petits sacrifices pour y arriver. Donc oui, ça je connais. Et effectivement, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de... Ouais, je me sens honorée de pouvoir présenter leur film. Ouais, je me sens honorée parce que je suis contente d'arriver au moment qui est le plus joyeux pour eux, en fait, finalement. C'est le moment où ils peuvent le projeter. Et ça, c'est un cadeau partagé, je dirais.
Et en tant que jeune cinéaste, on imagine aussi qu'après, il y a l'accompagnement du film. On n'est pas encore soutenu par des promoteurs, donc il faut aussi assumer cette partie-là de la sortie du film, de la promotion, aller vers les gens pour se faire connaître.
Oui, malheureusement, là, la place, elle n'est pas du tout là. C'est-à-dire, en tout cas, pour les films latino-américains en représentation en Suisse,
Il y a peu de gens qui prennent des risques pour représenter des premiers films, pratiquement pas. Soit on passe dans des circuits qui sont liés à des grands festivals, et une fois qu'on sera dans un grand festival, on pourra accéder à d'autres petits festivals, mais c'est un chemin qui est long. Et nous, à Filmer, on présente beaucoup d'avant-premières qui ne seront pas vues ailleurs. Parce que personne ne prendra le risque En gros, c'est de l'argent, donc de perdre des spectateurs, comme ils pensent, en fait. C'est qu'une thématique ne va pas rentrer dans un grand public. Mais après, c'est vrai que c'est le problème du cinéma en ce moment. On n'est pas que simplement dans une histoire liée à des distributeurs. On est dans une histoire liée au monde audiovisuel, comment il se projette, comment il se regarde. On regarde de plus en plus de choses seules. On regarde de moins en moins de choses ensemble. Presque, on dirait que la communion dans un cinéma est presque... C'est un acte de résistance à des moments encore aujourd'hui, se retrouver et de regarder ensemble des films. Donc c'est lié à ça. Donc du coup, l'industrie du cinéma, effectivement, est affaiblie. Elle est affaiblie, donc ce qui veut dire qu'elle est affaiblie aussi fait que les distributeurs prennent moins de risques, parce que moins de gens vont au cinéma, donc s'ils veulent prendre des risques, ils veulent que leur film marche. Et s'ils veulent que leur film marche, ils vont faire en sorte qu'il y ait certains ingrédients qui fassent que le film fonctionne. Et ils permettent peu à que s'il y ait des choses magiques, fragiles...
Qui sortent des sentiers battus.
Qui sortent des sentiers battus, ouais. Très peu. Mais voilà.
Alors, Vania Arion, vous parlez de communion par le cinéma. Justement, la communion, c'est aussi les débats, les discussions, ce que peut susciter un film. Quelles sont les thématiques, les débats que vous avez voulu pour cette édition?
Je ne sais pas si c'est les débats que j'ai voulu susciter. C'est plutôt... quels sont les films qui nous amènent à certains endroits? J'ai fonctionné un peu différemment, vu qu'il y avait aussi la découverte sur l'Amérique latine qui m'arrivait comme ça, de plein fouet et de front. Ouais, vraiment...
Frontalement.
Donc ça a été plutôt les films qui m'ont interpellée et auxquels je lui ai donné cette place. C'était eux qui m'ont amené. Tout d'un coup, je me suis arrêtée à un film en me disant « Ah, celui-là, il est particulier. » Parce que... par exemple, la question de LGBT intéressante en Amérique latine et que du coup on peut y parler et puis que ce film a une teneur un peu plus importante qu'un autre. Après, je suppose qu'effectivement, avec l'idée de la rétrospective de Guzman, il y a cette histoire de mémoire. Moi, je suis attachée à la mémoire, au non-oubli et à ce que la place du cinéma prend. Après, j'ai aussi eu ce désir de penser. J'avais beaucoup vu dans d'autres éditions, pas forcément à Filmar, mais aussi d'une Amérique latine un peu noire, d'une Amérique qui est un peu représentée dans la dureté, la difficulté. Et moi, je suis double nationale, j'ai beaucoup d'amis latino-américains. Et moi, je connais une Amérique latine qui vit, qui vibre, qui chante, qui danse. Et celle-là, en tout cas, j'ai aussi eu envie de la voir, voilà, cette année. Et c'est pour ça que, par exemple, on a créé une petite section cinéma et musique. C'était l'envie de... Ouais, que le partage et tout ça, elles sont quand même très présentes dans nos communautés latino-américaines qui sont beaucoup présentes à Genève, parce qu'on y a beaucoup de communautés et qu'on se mélange beaucoup. Et j'avais envie, en tout cas, de rappeler ça aussi.
À propos de petites sections, il y a une section qui s'appelle Filmacito. On rappelle pour les non-hispanophones que Ito, c'est le diminutif, en général, quelque chose de jeune, de petit, donc les enfants. Qu'est-ce que vous leur destinez aux enfants pour cette édition?
Ben, les enfants, c'est vrai que c'est un public particulier, les enfants. C'est
exigeant.
Particulier, exigeant. Les enfants, ils s'asseyent pas, normalement. Normalement, j'aime pas le mot normalement, mais ils s'asseyent pas comme nous, disons, les grands. On s'asseye, on se met dans un siège, et on se pose et on ne bouge plus. Les enfants, non. Les enfants, ils s'asseyent, ils bougent, quoi. Il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose qui les... Et aussi, ils ont un rapport avec l'image. Bon, déjà, ils sont beaucoup plus près de l'image que nous par rapport à la technologie d'aujourd'hui, mais Bah, aux enfants, j'ai juste désiré qu'ils puissent un peu ouais, être initiés à certains langages par rapport au langage de population indigène, originaire. Donc il y a tout un cycle d'animation, de films d'animation avec des langues quechua, avec du huichol, et puis c'est des petits films d'animation qui sont introduits par une comédienne, une conteuse, Chiqui Corredo, qui va introduire les films. C'est une sorte de petit spectacle en fait pour eux. Alors ça, c'est d'une part, puis après il y a des films qui sont plus liés en docu et fiction, qui partent sur des thématiques autour de l'eau. Et voilà, mais je pense que c'est un joli programme pour les petits en fait. Je pense qu'il a une teneur un petit peu plus grande que les autres années parce que j'ai des enfants sûrement aussi et qui sont petits, et puis que d'une certaine manière c'est leur, vu que je passe beaucoup de temps dans mon bureau, c'est aussi leur dédier un peu plus de place aussi. Et donc voilà, il y a quelque chose qui s'est monté autour de ça qui est très joli.
Voilà les enfants, ça sera l'occasion de voir maman pendant le festival. Maman qui a aussi fait des études en sociologie, il me semble. Mm-hmm. Et donc j'imagine que cette clé de lecture vous donne aussi un regard différent sur certaines approches, peut-être, sur certains pays et leurs thématiques.
Non, je crois que j'ai arrêté trop vite la sociologie pour la voir.
Tigler, toi t'es déçue.
Ouais, Tigler va être déçue. Non, je crois qu'il y a un moment donné où ça m'a plus intéressée, la sociologie, mais c'est lié à des données statistiques qui m'ont assez ennuyée, en fait. Je pense que s'il y aurait eu un autre chemin, ça aurait été plus philosophique. Voilà.
Et peut-être le terrain aussi.
Ouais, mais la philosophie, je sais que je m'y serais perdue, quoi. Donc j'aurais eu beaucoup de plaisir à faire ça. Après, ben, justement, avec des gens comme Jean-Luc Comodi ou comme Claudio Pacenza, ça a été ça aussi. Retrouver l'angle du cinéma et retrouver Deleuze ou retrouver Serge Danet dans mes études, c'est eux qui ont nourri un peu cette épaisseur qui me manquait, ouais, à un certain moment donné.
Vania, pour cette édition, vous pouvez nous mettre un petit peu en appétit pour les invités qui sont attendus à Genève?
Les invités, des jeunes invités, parce qu'on a souvent les jeunes réalisateurs qui viennent. C'est une tradition un peu chez Filmart de pouvoir leur offrir une place là. Guzman qui vient le 2 décembre, on fait une conversation avec Jean Perret à l'Arditi. Donc il sera là le 2 décembre. Après, des jeunes réalisateurs suisses, mais qui ont fait des ateliers à Cuba, et des jeunes réalisateurs binationaux qui habitent ici. Donc ça, c'est des gens qui seront parmi nous. Et puis, pas mal de jeunes... Alors, attendez, que je me rappelle un peu... Ouais. Oui, le film d'ouverture. Le film d'ouverture qui est une Chilienne et qui travaille aussi à Paris, qui s'appelle Marcela Saïd, avec un film qui s'appelle Los Perros, qui a été sélectionné cette année à Cannes, qui est un film aussi assez touchant sur, effectivement... et le Chili d'aujourd'hui, et l'oubli, et la place de la femme, et ses recherches, et ses classes sociales, en fait. Il y a quand même beaucoup d'histoires autour de les classes sociales en Amérique latine qui sont, je dirais, beaucoup plus présentes, en tout cas, qu'ici en
Suisse. Plus marquées, en tout cas.
En tout cas, plus marquées, ouais. Marcela Saïd, qui encore ouais, il y en a... Il y a un film, ouais, il y a plusieurs films. La Soledad d'un réalisateur vénézuélien qui parle de forme collatérale d'une maison un peu abandonnée et qui est reprise par les gens qui avant nettoyaient la maison et qui maintenant la gardent. Elle est un peu en destruction et c'est un moment difficile pour le Venezuela et ces gens se demandent comment les propriétaires veulent récupérer la maison et ces gens se demandent comment ils vont arriver à vivre. Mais ils sont dans une espèce de maison où beaucoup de gens passent, beaucoup d'histoires s'inventent. C'est un joli film. Catalina Melsa aussi, une jeune réalisatrice colombienne qui arrive avec un film assez coloré. Federico y el vuelo infinito de los días, qui se passe dans un village un peu à la Marquès, où plusieurs protagonistes sont des femmes un peu bigotes qui parlent, qui ont plus peur de parler et qui disent tout ce qui leur passe par la tête. Alors il y a quelque chose de très joyeux là-dedans et de très agréable à voir. Et puis Un film aussi de, ouais, d'une grande teneur, celle de... Ouais, c'est vrai que c'est des femmes, hein. Medea, un film du Costa Rica. Costa Rica qui est en fait assez représenté cette année, alors que je pense qu'il y a peu de films du Costa Rica, juste à maintenant on a vu, d'une jeune réalisatrice dont on va suivre un peu d'un déni de grossesse qu'on découvre peu à peu, mais c'est un très beau film.
Documentaire.
Fiction. Fiction, mais très fort dans le regard de la réalisatrice et cette jeune actrice qui est aussi très... qui trouble beaucoup les pistes, en fait. Qui ne nous laisse pas entrevoir ce qui va se passer et qui, du coup, nous perturbe. Un film qui a un coup de cœur. Puis il y a un autre film que j'ai aussi beaucoup apprécié, d'une grande qualité pour un premier film, qui s'appelle As Duas Irene, qui est un film d'un jeune réalisateur brésilien et qui parle de la rencontre de deux filles qui découvrent peu à peu qu'elles ont un même père et qu'elles habitent pas loin l'une de l'autre. Ça a une tenue cinématographique assez belle, comme ça. Des avant-premières, deux belles avant-premières, comme on osso spice, comme nos parents. Un film d'une femme
brésilienne,
Laith Bondanski, qui parle d'une femme qui est à Sao Paulo et dont le mari se retire de plus en plus pour travailler. Elle s'occupe de ses enfants dans cette ville, dans cette grande ville de Sao Paulo. Et c'est un peu les questions que peuvent se poser les femmes à certains moments donnés. Est-ce que je reste? Il part tout le temps, je m'occupe des enfants, je fais tout ce qu'il y a à faire, mais fait avec beaucoup d'amour, comme ça. Elle découvre finalement que son papa n'est pas son père. Et les choses s'enchaînent, comme ça. Et elle se pose des belles et bonnes questions, je pense, qui seront en adéquation avec plein de femmes du moment. Et puis encore un dernier, la Novia del Desierto, qui sera en avant-première aussi.
Qui était à Cannes.
Qui était à Cannes, qui va sortir en décembre. Et puis, qui est une belle rencontre entre deux bons acteurs au milieu de la cordillère, qui se rencontrent de façon quand même très surprenante. Elle oublie sa valise, il la prend dans le camion, et puis on est obligé de rester dans un espace-temps à un certain moment donné et se poser les questions de où on en est dans la vie à certains moments. J'aime bien ces films qui s'arrêtent un peu, où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà.
Voilà, on dirait qu'il y a des travaux à côté de nous, mais ce n'est pas le cas. Je reviens à un pays que vous avez mentionné au début de cette énumération très alléchante, le Venezuela, où vous avez vécu, puisque vous avez donné des ateliers, vous avez animé des ateliers là-bas, vous avez tourné un film. Quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe actuellement?
Ah, ça ne va pas y échapper, hein, cette question.
Ah, claro que sí.
C'est difficile pour moi, là, maintenant, ce qui se passe au Venezuela. Je suis très attachée, j'ai passé des moments importants pour moi au Venezuela. C'est vrai que les ateliers, la possibilité d'avoir donné des ateliers un peu... Moi, je suis partie là-bas pour donner... Je suis partie là-bas sans savoir où j'allais. Et puis après, j'ai eu la possibilité d'animer des ateliers dans des régions paysannes où il y avait les télévisions communautaires qui se créaient à ce moment-là. Donc toujours l'idée d'avoir des télévisions de quartier, chose qui paraît impossible en Europe. Et qui est impossible en Europe? Créer des télévisions par quartier où on pourrait passer ce qui se passe autour de chez nous.
Qui existait à l'époque du communisme.
Qui existait, mais qu'est-ce que ça... Donc, c'était des moments forts où j'ai rencontré des moments qui étaient chouettes. Et je pense que... mon film La Terre tremble parle de ça. Hein. C'est la difficulté d'avoir des envies d'utopie. Mais je pense que ça correspondait aussi à un autre moment de ma vie. J'étais encore en recherche de quelque chose qui n'existait pas et où je cherchais une tribu et puis je ne l'ai jamais trouvée. Voilà. Après, par rapport à ce qui se passe en ce moment en politique au Venezuela, c'est de voir la détérioration du pays. Le problème, c'est toujours... parce que c'est
les sacrifices de la société civile.
Le problème, c'est toujours les sacrifices de la société civile. En fait, finalement, après, on va pouvoir parler de Maduro et qui est Maduro et qui est Chavez. Et tout ça. Moi, j'ai pas tellement envie de discuter de ça là. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent sur place et qui sont dans une difficulté qui devient de plus en plus grande. Et ça, c'est la difficulté dans laquelle, pour moi, elle est difficile à penser que mes amis, les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai partagé, en ce moment, c'est difficile pour eux, quoi. Et que finalement, les sacrifices, c'est toujours un peu les mêmes qui les subissent. Et donc ça, c'est toujours l'injustice sur laquelle on n'a pas... qu'on a envie de dire, mais oui, effectivement, il faut changer les choses. Mais il faut changer les choses pour qui ? Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les lieux ? Vous avez des partenariats avec plusieurs lieux à Genève pour les projections ?
On a encore principalement 10 jours au Grutli. Le cinéma bio. Beaucoup au Arditi, fonction cinéma. Après, nos salles partenaires en France. Ferney-Voltaire, Annemasse, Saint-Julien. Et puis, j'oublie personne là, ouais. Et puis le cinéma bio qui reste toujours très attaché avec eux. Gracias a la vida, hommage à Musa. Oui, Violetta parle. Hein. Oui, on fait une collaboration avec Pancho González, Francisco González. Alors, oui, c'est l'hommage à Musa Violetta parle parce que c'est les 100 ans de la naissance de Violetta Parra, qu'une plaque commémorative a été posée cette année par Bachelet, le président de Bachelet à la rue Voltaire, ce qui a créé une envie par rapport à Francisco González de créer un hommage à Violetta Parra. Il fait ça avec son fils, qui est un grand ténor. Donc c'est l'idée d'avoir une table ronde. Nous, on projette des films liés à Violetta. Donc on projette un dernier film d'animation qui vient d'être fait par des jeunes réalisateurs, qui vient de sortir. Un très joli film qui raconte la vie de Violetta. Et puis on projette un document de Violetta qui est peu vu, qui en fait a été tourné à Genève par la Radio-Télé Suisse Romande, qui est un portrait de Violetta sur 25 minutes, où Violetta parle en français. Et c'est la période où elle est en fait à Genève, où elle habite à Genève. Donc c'est un joli court-métrage assez touchant de elle, parce qu'elle est ici, elle parle, elle parle beaucoup de comment elle... C'est la période où en fait Violetta est en train de tisser. Et elle fera après des grandes expositions à Paris où elle est reconnue par rapport à ce qu'elle tisse. Et voilà, ouais, ça sera un beau moment aussi, l'hommage à Violetta Parra.
Alors, un moment aussi de mémoire, et pour revenir encore à votre parcours, après je vous laisse tranquille, puisque vous êtes l'enfant d'émigrés chiliens, j'imagine que la mémoire est fondamentale dans votre construction, dans votre identité, et dans ce que vous suivez comme chemin.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Je pense que pour certaines personnes, ça prend du temps à savoir de où ils viennent, quelles sont les racines. Et je pense que les binationaux ou les gens qui naissent ailleurs de parents chiliens, et je parle de parents chiliens parce que c'est mon cas, mais il y a beaucoup de gens à Genève qui viennent d'endroits différents et qui grandissent ici et qui... on a tous des trajectoires comme ça. Moi, la mienne, je suis contente... au moment où on parle de la parenthèse du Venezuela, ça a été une parenthèse pour moi et ça a été toujours dans la direction de recherche de quelque chose. Je crois que je suis arrivée au bout de ça maintenant. D'avoir envie de dire que je suis genevoise et chilienne et que le Chili a beaucoup d'importance pour moi et que Genève est ma maison et que le Chili sera toujours ma maison et qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de choix de maison et que je ne choisirai pas d'une maison. Je voyagerai de l'une à l'autre comme ça me plaira et comme je le voudrais. Et ça, c'est la puissance qu'on peut trouver quand on est plus en repos avec soi. Des fois, on a de la peine à trouver parce que c'est difficile de trouver une place, par exemple, pour moi, retourner au Chili alors que la dictature n'a même pas forcément été reconnue comme une dictature par certains. Il y a des places qui sont difficiles à prendre. Mais voilà, après, chacun fait son chemin et du coup, vit très bien ce qu'il est en train de vivre. Je souhaite ça pour tout le monde. Et de toute façon, on ne peut pas oublier que Genève est faite de nous. Et ça, j'aime bien le rappeler. Moi, je suis très contente d'avoir ma tête d'indigène et d'avoir mon accent genevois. C'est comme ça que ça se construit. Et ça va se construire de plus en plus comme ça. Et je suis contente de ça.
Vous avez déjà des fans qui crient autour de nous, Vania Ayon. Merci pour cet entretien. Rappelez-nous juste les dates de la prochaine édition, qui est votre première édition. Mm-hmm. Mucha suerte, felicidades. Merci. Et rappelez-nous les dates et on vous retrouve tout prochainement pour nous parler, nous présenter des films pendant cette édition.
Oui, alors les dates, c'est du 17 novembre au 3 décembre.
Et puis, effectivement, on vous attend. Et Grutli, Fonction Cinéma aussi, qui est une salle qui est peu connue, mais où il y aura des films, le bio, les petites salles du bio, à l'Arditi, et puis le programme, le site.
Merci, Vania.
Merci.
Eh ben, c'était bien complet. Hein, je crois que là...
Attends que j'enregistre.
T'as de quoi faire.
Oui.
Mais très précis aussi. Ouais. Ma question.